Dimanche, nous avons vu le nom de Jésus, les plusieurs noms de Jésus, particulièrement le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre nom. Les gens ils sont appelés par son nom, il est connu par son nom, Jésus, fils d'Abraham. Les deux premières lettres de son nom, Ab, se rejoignent pour former le premier mot de la concordance hébraïque de Strong. Cela signifie Père. L'extension Ab en Abraham élargit également le sens à Père exalté. Père exalté. Quand Dieu changea son nom en Abraham, la syllabe ajoutée augmenta sa signification en Père d'une multitude. Et Ab, Père, et Abraham, Père exalté, et Abraham, Père exalté, et Abraham, c'est Père d'une multitude. Mais si nous devions compter tous les fils nés d'Abraham, le maximum que nous trouvons n'est que de 8, avec Isaac, Ismaël, et avec d'autres fils avec Keturah. Ce sont Ismaël d'Agar, Isaac de Sarah, et six fils qui lui sont nés de Keturah. Keturah, c'est la concubine d'Abraham. Mais certainement, il se mariait avec Keturah après la mort de Sarah. Cependant, pour notre thème, nous nous intéressons à celui qui porte le titre « Le fils d'Abraham ». En Matthieu 1, chapitre 1, quand nous lisons la généalogie de Jésus-Christ, une question, mais il y a combien de généalogies de Jésus-Christ dans les évangiles? Il y a un seul ou plusieurs? Il y a deux. Et un raconté par Matthieu, il descend d'Abraham. Et donc, si vous voulez, on peut prendre Matthieu 1, le verset 1. Matthieu 1, 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Phares et Zara, Phares engendra Esrom, Esrom engendra Aram et ainsi. Donc, il commence avec Abraham et après il descend jusqu'à Joseph et Jésus-Christ. Le fils d'Abraham est unique en ce sens qu'il apparaît dans le premier verset du Nouveau Testament, dans la généalogie rapportée dans l'évangile de Matthieu. Il est utilisé à propos du Seigneur Jésus-Christ une seule autre fois dans la Bible, dans la généalogie rapportée par Luc. Donc Luc chapitre 3, si vous voulez bien prendre Luc chapitre 3, verset 23, Luc 3, 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matta, fils de Lévi, fils de Melki, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Méléa, fils de Mena, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boaz, fils de Salmon, fils de Nahson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Hezrom, fils de Pharez, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nahor. Donc, on voit que Matthieu, il commence avec Abraham, il descend, et ici, on voit qu'il commence avec Jésus-Christ, il remonte. Et quand Luc il finit, il dit Adam, fils de Dieu. Alors, j'espère que vous avez remarqué ça. Comment se fait-il que la prétention d'Abraham à la gloire en tant que père d'une multitude culmine dans celui qui est appelé fils d'Abraham? Tout a commencé lorsque Dieu de gloire lui est apparu en Mésopotamie. Il l'amena en Canaan. Il fit la promesse qu'il ferait d'Abraham. Dieu l'a dit, je te ferai une grande nation et qu'à travers lui, toutes les familles de la terre seraient bénies. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Peut-être je vais lire Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous pouvons suivre le récit à travers la naissance d'Isaac, de Jacob, de 12 patriarches, de la famille de 70 personnes qui est descendue en Égypte pendant 400 ans et de la grande nation qui est sortie de l'esclavage. Et que nous savons que quand il y a la famine et ils partent en Égypte sous la protection de Joseph. Donc, ils sont 70, je pense que la parole dit 70 âmes, ils sont partis. Et finalement, ils sont devenus un grand nombre de peuples et ils sont restés finalement à peu près 400 ans et dans l'esclavage. La promesse de Dieu à Abraham s'est partiellement accomplie. Et Dieu a multiplié son descendant. C'est vrai. La plénitude de la promesse se réaliserait des siècles plus tard. Bien que Abraham fût très avancé en âge, Dieu rassura son serviteur en lui, disant qu'il rendrait ses descendants comme la poussière de la terre, comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. Hein? Quand Dieu il a dit que je te multiplierai, je te ferai une grande nation, et il y avait beaucoup de personnes maintenant en Égypte. Mais ce que la parole dit exactement, la promesse de Dieu, c'est qu'il rendrait ses descendants comme la poussière de la terre, comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. C'est remarquable. Prenez le chapitre 13 de Genèse, s'il vous plaît. Genèse 13, on va lire à partir de verset 14 jusqu'à 18. Genèse 13, verset 14 jusqu'à 18. Nous sommes en train de voir le nom de Jésus, fils d'Abraham. Donc Genèse 13, 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. C'est là que Dieu rencontre Abraham. Il fait cette promesse que je te multiplierai et je ferai comme tes descendants, comme ta postérité, comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Donc, ils seront innombrables. Et encore à Genèse 16, nous allons lire quelques versets. Genèse 16, versets 14 à 18. Genèse 16, versets 14 à 18. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et qui tu donneras le nom de Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Atta El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Et j'ai rien vu ici après qu'il m'a vu. » C'est pourquoi l'on a appelé ce puits de Lachaï Roy, et il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils, Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils que Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Donc nous connaissons l'histoire. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, il était. Quand Dieu l'a promis à Abraham qu'il multiplierait sa postérité, ils seront plus nombreux comme la poussière de la terre, comme l'étoile du ciel. Mais sa femme était stérile. Et Abraham, il était bien avancé dans l'âge. Donc, il n'a pas pu croire. Et Sarah l'a conseillé de prendre son serviteur Agar et pour aider Dieu pour accomplir sa promesse. Donc, voici où on trouve Agar dans la maison de Sarah, dans la maison d'Abraham. Et sa maîtresse, elle a maltraité, donc Agar se fuit. Et il faut comprendre qu'Agar, c'est une Égyptienne. C'est une Égyptienne, une esclave certainement. Donc, elle fuit sa maîtresse. Elle part dans le désert et elle est enceinte. Et l'Éternel rencontre, il donne cette promesse à Agar. Et Ismaël, tu donneras le nom d'Ismaël, et il sera grand et sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Donc, il y a un autre peuple qui divise ici. Il y a un autre peuple qui divise. Mais vous voyez, même quand les hommes, ils font toute autre chose que la volonté de Dieu, Dieu, il sait diriger les choses. Dieu, il accomplit sa promesse. Dieu fait sa volonté. Et Dieu, il est souverain. Les hommes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire, même parfois dans notre vie, on peut parfois faire des choses qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Mais Dieu règne. Dieu règne. Donc, encore dans Genèse chapitre 22, encore une fois, on voit la promesse de Dieu. C'est la scène, c'est le holocauste d'Isaac, hein, quand l'Éternel demande à Abraham de sacrifier son fils unique Isaac. Donc, Genèse chapitre 22, versets 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, C'est-à-dire qu'il a obéi à la parole de Dieu, il voulait sacrifier son fils unique. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. La première fois quand Dieu parle, Abraham, il n'avait même pas un enfant. Et après, quand Dieu parle, il y avait Ismaël. Il n'avait pas son propre fils, il y avait Ismaël. Et encore Dieu parle, il a vu qu'il a épargné Isaac. Mais pas plus que ça, il avait un seul fils. Mais Dieu dit que je multiplierai ta postérité comme la poussière de la terre, l'étoile du ciel. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ces expressions poétiques ont dû l'étonner, l'amenant à réfléchir à la grandeur du plan de Dieu. Mais il arriva un moment où Dieu mit Abraham à l'épreuve et le fit passer au-delà de la poussière, des étoiles et du sable et amena devant lui son fils Isaac. Dieu l'a dit que je te multiplierai, mais Dieu lui demande quelque chose contraire à sa promesse. Quelque part, humainement parlant, Abraham, il devrait penser que Dieu l'a dit qu'il va faire, mais Dieu, il me demande le seul fils que j'ai, il me demande de sacrifier pour lui. Et il devrait être perplexe et une incompréhension totale. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui qui t'aime, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. L'expérience du mont Moria a été le test qui a prouvé la foi d'Abraham et a donné un aperçu de ce que Dieu ferait pour accomplir sa promesse. Isaac a préfiguré le Seigneur Jésus portant la croix comme il a porté le bois pour le sacrifice et s'est soumis à la mort. On voit c'est un type de Jésus. En Isaac, nous voyons un type de Jésus sur Isaac. Il porta le bois avec son père. Et comme Jésus, il a porté sa propre croix. Jésus il était forcé de porter sa croix au mont de Golgotha. Et Isaac aussi, il a porté le bois sur lequel il devrait être sacrifié. Genèse 22, nous allons lire à partir de verset 7 jusqu'à 13. Genèse 22, on va lire à partir de verset 7 jusqu'à 13. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans le buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, et offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc nous voyons comment Dieu il a demandé de sacrifier son fils. Ça, c'est le vrai test. Quand Dieu promet quelque chose, Et quand nous voyons que les circonstances ce n'est pas favorable pour l'accomplissement de la promesse de Dieu, pour nous, ça nous semble très sombre et contraire à la parole de Dieu. Et comment agissons-nous? Comment agissons-nous? Quand les choses... ça, c'est le vrai test de la foi. Et qu'est-ce qu'on a vu sur la montagne du Seigneur? Abraham, il a dit, ce sera... quand Isaac il demande où est l'Holocauste, voilà, verset 7, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Mais quand on vit sur la montagne du Seigneur, dans Jean chapitre 8, tournez avec moi, en Jean chapitre 8, nous allons lire l'explication que le Seigneur Jésus il donne. Hein, ce sera vu dans la montagne du Seigneur, mais qu'est-ce que Jésus il explique? Jean 8, verset 53 à 59. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui qui vous dit être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je le garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. On trouve la réponse quand Isaïe l'a demandé, où est l'agneau pour l'Holocauste? Il y a le feu, il y a le bois, mais il est où l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham, il a dit, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Voilà, donc Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier dans la montagne de Dieu. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans le buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel sera pourvu. Donc Abraham, il croyait ce que Dieu il va faire plus tard avec Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour jeter contre lui, mais Jésus se cacha. Et il sortit du temple. Pour en revenir à cette scène sur le mont Morija, Dieu a prêté serment à Abraham en disant, « Je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Genèse 22, 17-18. C'était la dernière promesse que Dieu fit à Abraham et Abraham était pleinement convaincu que ce qu'il avait promis, il était également capable de l'accomplir. Donc jusqu'à maintenant, la promesse de Dieu que je te multiplierai, ta postérité, ce sont comme la poussière de la terre, sable de mer, ou l'étoile du ciel, cieux. Et ça, ce n'est pas, c'était partiellement accompli pendant cette époque. Et mais sinon, c'est aussi, c'est la promesse que Dieu l'a donnée à Abraham. C'est par la foi. C'est aussi, c'est physique, hein, parce que si la promesse n'était pas accomplie de manière physique, Abraham il n'a pas pu avoir Isaac. Isaac il n'a pas pu avoir Jacob. Et ainsi, la postérité d'Abraham, et finalement Jésus, n'aurait pas pu naître en tant qu'un homme. Donc c'était nécessaire. Mais la promesse, c'est l'accomplissement de la prophétie, c'est par la foi aussi. Donc ici, on va lire quelques versets en Romains 4. Romains 4, 17 à 21. Ce que Dieu l'a promis, il l'a également accompli. Romains 4, 17 à 21. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père a tous, selon qu'il est écrit, que à la foi d'Abraham, notre Père a tous, selon qu'il est écrit, quand Paul il écrit aux Romains, et nos pères à tous, les Juifs réclamaient Abraham comme leur père. Mais quand Paul il dit, notre Père a tous, c'est par la foi. Nous sommes le fils d'Abraham par la foi. Et verset 17, Romains 4, 17, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Et nous avons généralement cette pensée que les descendants d'Abraham, c'est des Juifs. Oui, c'est partiellement vrai, mais aussi toutes les autres nations. Hein, le Keturah, de Keturah, il y avait plusieurs nations. Parce que vous voyez, les six filles d'Abraham, il a eu avec Keturah, ils sont tous partis, ils sont devenus des nations. Et Ismaël, il est, on voit dans, Ismaël est marié avec une Égyptienne, donc il est parti de ce côté. Donc Abraham, ce n'était pas uniquement le père de la nation juive. Hein? Comment Abraham a-t-il pu devenir le père de nombreuses nations? Galates chapitre 3, verset 16 explique que la clé est la semence, le Fils. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités en pluriel, comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc ici, quand c'est marqué, promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. C'est pourquoi on l'appelle fils d'Abraham. C'est par celui que le Seigneur Jésus-Christ, le fils d'Abraham, que ceux qui croient font partie de nombreuses nations qui, par une foi semblable à celle d'Abraham, reçoivent la promesse. C'est Romains chapitre 4, verset 16 que nous venons de lire qui le dit le mieux. C'est de la foi afin que ce soit par la grâce jusqu'à la fin, la promesse sera sûre à toute la postérité. D'une seule sémence, Christ à toute la postérité, à tous ceux qui croient, cette promesse est donnée et s'accomplit encore aujourd'hui. Si on peut réjouir aujourd'hui que Christ c'est la postérité d'Abraham et nous sommes la postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Et quand Dieu l'a béni Abraham, il a dit, par toi, toutes les nations seront bénies. N'est-ce pas? Par toi, toutes les nations se seront bénies. Mais je pense que Paul, il dit en Galates, Christ, il est devenu la malédiction en étant pendu sur un bois, pendu sur le bois. Et puisque les autres peuvent devenir la bénédiction, à Christ, il est devenu malédiction à cause de nos péchés. Mais quel merveilleux nom que Christ il a comme fils d'Abraham. Que le Seigneur nous aide à contempler ce merveilleux nom de Christ, le merveilleux nom de Jésus qu'il a. Et chaque nom, il a une signification extraordinaire, une profondeur qui mérite notre contemplation pendant cette période. Nous fêtons la naissance de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, ta parole, nous croyons à ta parole, Seigneur, qu'il est vrai, même s'il est plus de 2000 ans, même 3000 ans, Seigneur, qu'il est écrit, mais il est tellement vrai parce que nous sommes les enfants par la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait parce que ce que tu as promis, Seigneur, tu as accompli. Et chacun de tes promesses était accompli. Et il s'accomplit même aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu vivant. Tu n'es pas mort. Seigneur, tu vis en nous par ton esprit. Seigneur, que ton esprit agit dans nos vies. Seigneur, que nous portons l'image de Christ pour ce monde. Que ton nom soit béni. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Amen.